Les émissions du Lot en Action, ce sont d'abord deux mensuelles de 2 heures chacune, en direct, sur les radios libres Antenne Doc et Décibel FM, mais ce sont également des reportages, des interviews, des rencontres radiophoniques que nous publions sur notre site lelotenaction.org. Le 5 mai dernier, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, nous avons rencontré le Mathieu Ebessène Goudin, le jeune secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Ce dernier est un habitant de la vallée du Lot, pas très très loin du fief de Don Miquel. Mathieu est candidat à la députation dans la première circonscription. Alors cette première interview politique n'est que la première d'une longue série et on ne doit pas vous cacher que nous avons l'intention d'organiser un débat au début du mois de juin entre les candidats de gauche aux législatives, débat qui serait public et diffusé sur notre site. Mais donnons la parole à Mathieu pour cette interview qui a une durée de 32 minutes. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes à la veille quasiment du second tour. Quel est ton regard sur ce qui vient de se passer et peut-être un petit mot sur le troisième tour qui se profile ?
Alors, dans cet entre-deux-tours, moi je tirerai trois leçons. Je veux tirer trois leçons, disons, de ce qu'il me semble que les électeurs ont exprimé lors du premier tour. Je crois qu'il y a une envie très forte de cette transition écologique, sociale et démocratique que nous-mêmes nous appelons de nos voeux. Je pense qu'il y a une attente très forte aussi d'une Europe différente, qui soit plus proche de ses citoyens, plus sociale, plus démocratique. Le projet est à discuter, mais cette envie a été exprimée très fortement. Et évidemment, ça n'échappe à personne, qu'il y a une forte envie de renouvellement des visages. Ça, c'est une chose, mais à mon avis, surtout des pratiques politiques. Donc, moi, c'est le projet évidemment que je veux porter. Alors pour le deuxième tour, moi très clairement, je ferai barrage au Front National avec le seul moyen que j'estime être à ma portée, c'est-à-dire voter pour Macron, qu'évidemment je ne fais pas avec grand enthousiasme, vous pouvez vous en douter. Cela dit, je ne mets pas du tout Macron et Le Pen sur le même plan. Et je pense que tout va se jouer sur le troisième tour. Enfin, beaucoup va se jouer sur le troisième tour, c'est évident. Parce que est-ce que Macron demain élu, parce qu'on verra ce qui arrive dimanche, mais demain Macron élu, est-ce qu'il aura une majorité qui lui permettra de gouverner? Dans quel sens il ira? Aujourd'hui, le projet est trop flou pour le dire, à mon avis. Et du coup, il y a une chance que des forces importantes à l'Assemblée nationale puissent peser sur le projet. Et c'est en ce sens que les législatives sont extrêmement importantes. C'est d'ailleurs assez inédit puisque alors qu'on est toujours sous la Ve République, on se retrouve dans une situation qui, de fait, va ressembler probablement à un gouvernement de coalition, comme ça peut se passer par ailleurs, et qu'on pourrait souhaiter, par exemple, dans le cadre d'une 6e République qui fait partie du projet qui est porté par ELV notamment.
Et alors, au regard de ce qui s'est passé au premier tour, si on parle des législatives, qui sont effectivement, dans ce que tu viens de décrire, le troisième tour, comment éviter les erreurs qui ont été commises au premier tour ?
Donc ça, je pense qu'on parle effectivement de la division de la gauche. Bon, c'est un peu incantatoire. Personne ne souhaite la division, moi non plus. Et voilà, ELV non plus. On souhaite qu'il y ait une unité. On y travaille. C'est sûr qu'on fait des efforts au niveau local, mais il est évident que ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas des signaux forts au niveau national. Faut pas se leurrer. Bon, je voudrais aussi rappeler que les législatives, c'est effectivement une élection un peu différente de la présidentielle, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se maintenir au deuxième tour, il faut 12,5% des voix. Donc en fait, ça laisse la possibilité d'avoir un champ beaucoup plus vaste au premier tour et de prendre ses responsabilités entre le premier et le deuxième tour pour éviter une triangulaire, etc. Je ne dis pas ça pour défausser la responsabilité de l'unité au premier tour. Avant le premier tour, ce que je veux dire, c'est que si nous n'y parvenons pas, et là, y a des choses sur lesquelles on peut avoir... on a un levier au niveau local, on peut discuter avec nos partenaires, on peut discuter avec les autres forces politiques, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Et de nouveau, les signaux nationaux, on peut faire remonter nos souhaits, on peut faire remonter nos inquiétudes. Si ça ne redescend pas de manière positive, ça complique les choses au niveau local.
Et alors là, actuellement, dans les pré-négociations, on va dire, qui sont en place, donc on parle des Insoumis, on parle du PS, on parle du PC, j'imagine. Où en sont ces négociations ? Comment tu sens les choses au niveau des premières discussions ?
Alors, nous, on a fait la campagne présidentielle avec les militants du PS qui portaient la ligne de Hamon. Hein. Ça, c'est important de le distinguer parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'au PS, il y a quand même une division assez marquée. Donc, eux étaient, je crois, très heureux de faire la campagne avec nous. En tout cas, c'est ce qu'ils expriment. Et nous aussi. Et parce que je tiens à remercier des militants PS qui sont sincères, qui sont de vrais socialistes, qui sont impliqués, qui souhaitent porter cette ligne. Et aujourd'hui, sur la première circonscription, ils n'ont pas de candidat. Parce que c'était une circonscription qui était réservée pour le Parti radical de gauche. Et on peut estimer, enfin je ne veux pas parler à leur place, mais qu'ils ne sont pas vraiment sur la même ligne politique. Donc on discute avec eux pour voir dans quelle mesure on peut faire les choses ensemble sur la première circonscription. Je parle vraiment de la première, là. Hein, voilà. Avec le PC, on discute aussi. Je pense que le PC discute de son côté avec la France insoumise. Évidemment, rien ne va se débloquer avant la fin du deuxième tour. Dire que demain, on va parvenir à avoir une candidature unique entre ces quatre nuances de gauche, c'est assez optimiste à mon avis. J'espère que ça se fera. J'en suis pas convaincu. J'espère qu'on arrivera à réduire ces candidatures à deux, qui porteront finalement les deux courants de gauche qui étaient présents à la présidentielle. De nouveau, les écueils de la division sont moins lourds aux législatives qu'ils le sont à la présidentielle, parce qu'on a cette possibilité de prendre cette responsabilité entre les deux tours, et le candidat qui sera arrivé en meilleure position... Enfin, celui qui sera arrivé en moins bonne position pourra se désister pour le candidat qui est arrivé en meilleure position pour qu'il puisse se maintenir et profiter de la dynamique. Voilà.
Et alors, dans cette campagne, parlons maintenant des législatives, dans cette campagne qui s'amène, qui arrive, quels sont les 2-3 points qu'Europe Écologie Les Verts aimerait mettre en avant, porter ? Pour le Lot, hein ?
Alors, alors, je voudrais juste rappeler quelque chose par rapport aux législatives qui me semble important, c'est qu'il faut bien avoir en tête que le député, c'est un législateur, hein, c'est pas un exécutif. Et là, c'est très important parce que je constate que effectivement les candidats aux législatives font campagne comme si demain ils allaient être des élus de l'exécutif. Et c'est faux. Ils ne peuvent pas apporter des solutions comme peuvent apporter des solutions les gens du département ou les gens dans les mairies, etc. Donc,
à ceci près, en prenant par exemple l'exemple de ce qui se passe au niveau des écoles, où on a à un moment donné un protocole qui est signé entre l'académie et les grands élus, et là les députés en font bien partie, les sénateurs, donc les...
Tout à fait. Non, mais bien sûr. Enfin, je voulais remettre le cadre. Hein. Il ne s'agit aucunement d'enlever les responsabilités qui sont celles des députés, bien entendu. Hein. Donc, évidemment, là-dessus, le député a un rôle. Et ce que je veux dire, c'est que le député, de fait, son rôle, c'est de peser autant que possible dans l'Assemblée nationale pour orienter les lois dans les directions qui lui semblent nécessaires et qui doivent être, dans le cas, par exemple, d'un député du Lot, être inspiré par ce qu'il constate sur le terrain et par les besoins de ce territoire. Donc maintenant, je réponds à ta question par rapport à dire qu'est-ce qu'on veut porter pour le Lot, qu'est-ce qui me semble être les problématiques pour le Lot. Donc déjà, très clairement, il y a la problématique des services. Tu l'as dit là avec l'histoire de l'école. Moi, je pense que voilà, les fermetures d'écoles pour des raisons vagues de pas suffisamment d'élèves, cette position dogmatique contre les classes uniques, etc., est franchement un peu arriérée à mon avis. On sait très bien que les classes uniques, au contraire, c'est quelque chose qui est très positif pour les enfants. Ça a été démontré, ça l'est encore démontré notamment par les excellents travaux qui ont été montés par Céline Alvarez sur l'éducation. Donc là-dessus, il n'y a pas de raison. Après, je pense qu'on prend aussi le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut dans les petits villages, dans la ruralité, dans le Lot? On aimerait qu'il y ait des gens qui s'installent. On aimerait que ces villages soient vivants. Et il y a des maires qui parviennent. Ils parviennent à créer des dynamiques pour que les villages soient vivants. Et qu'est-ce que regardent les gens qui viennent s'installer, les jeunes, actifs, qui ont des enfants? La première chose qu'ils regardent, c'est la présence d'une école. Donc si l'école fait... Fermer une école, c'est beaucoup plus facile qu'en rouvrir une. Donc moi, je suis partisan du fait que même si une école est effectivement un peu fragile, qu'effectivement, à un moment, il n'y a pas suffisamment d'élèves, etc., plutôt que de fermer cette école, on vaut mieux de mettre les moyens de la puissance publique, les efforts collectifs, sur le fait d'attirer des gens pour remplir ces écoles. Alors là-dessus, je pense qu'on a plein de leviers. De nouveau, il y a des tas de maires qui prouvent que c'est possible. Et ça rejoint les autres sujets qui nous intéressent. C'est l'installation de nouveaux agriculteurs. On a un gros problème de transmission des terres. On a plein de terres avec des agriculteurs qui vont partir à la retraite. On ne sait pas ce qui va en devenir. Je m'embrouille un peu parce que je veux aussi parler des histoires de filières, parce que je pense que c'est important d'avoir les filières qui permettent à des agriculteurs de s'installer. Mais bref, je veux dire, tout ça est lié. C'est ça qui est important. Donc, il y a l'installation d'agriculteurs. Moi, il y a un autre projet qui me tient à cœur.
Attends, l'installation, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens dans le Lot, et même si on est sur le local, on est dans la notion de pensée globale à agir local, donc on est en plein dans le sujet. Quels sont les outils qui seraient à mettre en place pour favoriser, par exemple, là, parce qu'il y a énormément d'élus, les communes ont la possibilité de préempter sur des terres, mais se heurtent à un problème qui est simple, qui est celui du financement. Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées au niveau national, au niveau législatif, pour permettre, dans les outils mis à disposition, aux élus d'effectuer ces préemptions correctement pour pouvoir installer de jeunes agriculteurs?
Bon, ce sera un peu prétentieux de ma part de donner une réponse très claire sur la question que je ne maîtrise pas totalement. Par contre, c'est évident que moi, à titre personnel, mais enfin, je pense que LV souhaite que les outils existants soient véritablement utilisés, soient connus et utilisés, parce qu'il y a souvent ce problème-là, et que si les outils ne sont pas suffisants, qu'on puisse mettre en place les législations nécessaires pour que ça puisse advenir. Je pense que... Là, je vais rejoindre la question de filière. Je pense que... Je discute avec des agriculteurs qui sont des agriculteurs conventionnels, qui ne sont pas forcément très enclins, disons, à la ligne portée par Europe Écologie Les Verts. Moi, j'habite à Tour-de-Fort, donc on a cette problématique dans la plaine, hein, dans la vallée, avec des terres qui seront amenées à être inutilisées. Ce sont des gens qui sont ouverts hein, à ces nouvelles filières, qui sont prêts potentiellement à faire du bio, etc. Mais leur question à eux, c'est toujours les questions de filière. À mon avis, si on arrive à apporter une réponse à cette question, on réglera déjà une partie du problème. Parce que si la... Alors, je sais qu'on rentre dans des débats sur qu'est-ce que c'est que la viabilité économique, qu'est-ce qu'elle n'est pas, etc. Tout ne se résume pas à ça. Mais si à un moment, on arrive à démontrer qu'il y a une viabilité économique, toute la question du financement, de la transmission s'en trouve facilitée. Et on sait aussi qu'on vit dans des départements, on vit dans un département où ça compte beaucoup pour les agriculteurs qui sont en place. Et je suppose, j'espère en tout cas, que ça peut permettre de débloquer certaines situations. Donc là-dessus, il y a plusieurs options. Alors évidemment, il y a l'option idéale du circuit court. Donc c'est avoir un paysan boulanger qui puisse vendre son pain localement, c'est du maraîchage qui puisse vendre ses légumes localement. Il y a des expériences partout dans le Lot qui sont parfaitement viables et qui sont très intéressantes. Mais si on prend l'exemple du maraîchage, par exemple, à Tour de Fort, un maraîcher, il va utiliser quoi ? S'il fait de la vente directe, il va utiliser peut-être 2-3 hectares. Là, on parle de dizaines d'hectares qui vont être inoccupés. C'est beaucoup plus que ça. Donc, il faut imaginer des filières. Demain, on pourrait imaginer de faire de l'huile de tournesol bio. On a un terroir qui permet de faire pousser du tournesol. Et pour ça, il faut une presse à huile. Il faut une unité de transformation. Ça ne veut pas dire une usine, mais en tout cas, il faut un endroit. Et c'est là, je pense, que les pouvoirs publics peuvent vraiment jouer le rôle de levier. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider à la mise en place de filières autour de laquelle s'organise la collectivité. Mais là, je tiens à faire aussi, à apporter un point sur dans quel sens doivent aller les choses. C'est très bien que les élus puissent être force de proposition et proposer des solutions. Je crois que le travail des élus, c'est aussi de faire levier à leur niveau sur ce qui est déjà existant au niveau local. Et vous connaissez comme moi les structures qui travaillent déjà sur ces questions, que ce soit l'ADAR, Terre de Liens, et pas que.
Terre de Liens qui ne bénéficie d'aucune subvention de la part de la région Occitanie.
Voilà, donc c'est... Exactement. Alors, là, on touche vraiment ce que peuvent faire les élus, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui portent des projets qui sont très intéressants, qui sont dynamiques, avec des gens qui sont impliqués et qui font, à mon avis, un véritable effort pour leur territoire. Mais la courroie de transmission politique ne fonctionne pas toujours. On va dire qu'elle fonctionne jamais, mais enfin, elle ne fonctionne pas toujours, enfin, très clairement, pas suffisamment. Et là, je pense que c'est le boulot des élus. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui sortent comme ça, qui sont positives, je pense, là, je sors du cadre de l'agriculture, mais je pense à une initiative comme Célewat, par exemple, à Bringues, où on a des gens qui se mettent en collectif, qui montent une coopérative pour créer de l'énergie citoyenne. Très bien. Franchement, l'appui des élus, pour l'instant, on attend. Hein. C'est pas, pourtant, ce n'est pas un projet qui vaut très cher et qui reproduit 4, 5, 6, 10 fois dans tout le département, permettrait en plus au Lot de remplir ses objectifs en termes d'autonomie énergétique, avec un projet qui rapporte aux collectivités, qui est citoyen, où les gens s'impliquent dans la gestion. Ça, je crois que c'est un... ça, c'est une responsabilité collective. C'est-à-dire que c'est la responsabilité des élus, c'est la responsabilité des citoyens de forcer les élus à aller dans ce sens-là et de s'asseoir autour de la table pour discuter des projets. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je n'ai pas des réponses à tout, je ne connais pas tous les sujets. Par contre, ce que je sais, c'est que, à mon avis, les gens attendent que la politique se passe comme ça aujourd'hui. Et c'est le boulot des élus de dire, bon, bah, écoutez, asseyons-nous ensemble et trouvons des solutions. On a... Voilà.
Alors tu parlais du projet Célewat, donc on arrive sur l'énergie. Enfin, moi je rebondis parce que c'est un sujet évidemment qui nous tient à cœur. Et on a eu récemment dans le Lot, on a actuellement de grosses difficultés en ce qui concerne le projet de méthanisation, de gros projet de méthanisation qui est porté par Capel sur Gramin, avec sa filiale de la Quercynoise. Alors pourquoi ce projet nous a mis particulièrement en colère? Parce qu'au Lot en Action, évidemment, on met en avant les alternatives, on essaie de brosser un tableau et de montrer qu'il se passe de belles choses et des choses intéressantes. La méthanisation en fait partie. Et ce qui nous met en colère dans ce projet-là, c'est qu'il est passé en catimini, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a pas voulu le débat. On a fait une enquête d'utilité publique en plein été. Il y a eu peu de communication. On peut pas dire que les élus se soient vraiment portés et en tout cas essayer de favoriser cette communication-là. Et on rentre dans une logique immédiate de rentabilité. Et cette Concomitamment, l'ADEME produit un rapport concernant la méthanisation en novembre. Yoann, tu me diras si je me trompe, mais en novembre, parlant de la méthanisation et attirant l'attention des pouvoirs publics sur le dimensionnement de ces projets, en disant que ces projets sont intéressants. Mais attention, tu parlais de filières tout à l'heure, à la compétition qu'on va mettre en place dans les filières, au transport déraisonnable des matières premières pour alimenter les digestats. Et on se retrouve là avec des élus qui font la sourde oreille, les porteurs de projets évidemment qui refusent d'entendre l'inquiétude des populations sur place, qui ne sont pas qu'une inquiétude environnementale et qu'on pourrait définir du « not in my backyard », mais vraiment il y a des gens qui sont impliqués. Comment peut-on aujourd'hui éviter ce genre de choses ? C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure du développement des projets comme CeleWatts. À un moment donné, les élus vont s'en emparer si les populations s'emparent de ça. Mais comment peut-on, si on n'associe pas les populations à la réflexion, arriver à faire bouger les lignes ?
Alors, je crois que le projet de la méthanisation, comme tu l'as dit, est emblématique de ce qu'il ne faut plus faire. C'est-à-dire que, moi je vais rappeler la position qu'on a prise à l'époque sur ce projet de méthanisation. De dire, je crois que c'est l'avis d'immensément de gens, y compris des gens qui peuvent s'y opposer au niveau local. Enfin, je ne veux pas parler pour eux, mais c'est ce qui ressort des communiqués, c'est que la méthanisation, très bien, dans le cadre de la transition énergétique, etc. Je pense que sur ce projet, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout considéré dès le départ. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait un problème avec les déchets de la coopérative. Il fallait trouver une solution pour les traiter de manière écologique. Très bien. La méthanisation, pourquoi pas ? Sauf qu'à aucun moment, on a réfléchi à changer le modèle de production. Et en fait, cette usine de méthanisation conforte un élevage intensif de canards qui est polluant, qui est probablement assez... qui pose des questions en termes de bien-être animal, etc. Bon, je ne m'étale pas plus que ça, mais voilà. Déjà, ça, c'est le premier écueil. De deux... très clairement, ce projet, comme tu l'as dit, a été fait en catimini. C'est-à-dire que le projet est soumis, en fait, à l'approbation populaire, alors qu'il est déjà parfaitement ficelé. Et tous les projets sont montés de la sorte. Enfin, tous les gros projets dans le Lot dans le Lot, je pense que pas que, hein, c'est pas que dans le Lot, sont ficelés de la même manière. Et ça, ça rejoint ce que je disais plus tôt, je pense que on en a tous ras-le-bol, quoi. C'est-à-dire que la co-construction des projets, la démocratie participative, c'est pas une réunion publique quand le projet il est ficelé. C'est démarrer les choses à la base. Alors, j'entends, c'est facile à dire. C'est plus compliqué à mettre en œuvre. J'entends, ça prend du temps, ça demande beaucoup de réunions, ça demande beaucoup de temps investi. C'est pas vraiment dans la culture des gens, ni des élus. Donc c'est quelque chose qu'il faut inventer tous ensemble. Et ça prendra sans doute des années pour arriver à quelque chose d'insatisfaisant. Mais si on le fait pas, on va continuer à s'opposer sur des projets comme la méthanisation et sur d'autres demain, c'est sûr. Et alors, pour essayer d'apporter des solutions un peu concrètes par rapport à ça, moi je pense que on a aujourd'hui des outils. Je pense aux outils numériques, par exemple, qui nous permettent de consulter les gens qui sont concernés. Alors, comment ça doit passer ? Est-ce qu'on doit appeler à la constitution de comités volontaires, des gens qui puissent être consultés via une plateforme sur un téléphone, enfin, une plateforme Internet ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est les gens dans un bassin de population ? Alors, bon, j'ai pas de solution idéale, mais en tout cas, il y a des outils, on peut y réfléchir ensemble, de savoir comment demain, que ce soit pour un élu du département, pour un élu d'une mairie, ou pour un député, de pouvoir discuter avec les populations concernées, des textes qui vont être votés, des projets qui vont être montés, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, et je pense que c'est très important aussi, ce qu'on voit dans le Lot, et CeleWatts en est un exemple, mais il n'y a pas que CeleWatts, je voudrais parler notamment des amis du Célé, dans la vallée du Célé, c'est que les projets qui sont portés par les citoyens, ce mot est un peu galvaudé, hein, le mot de citoyen, enfin, mais en tout cas qui sont portés, disons, par la base, aboutissent assez peu, en général, par rapport à ceux qui viennent, effectivement, des structures qui tiennent un peu les choses, les structures où il y a du pouvoir. Et ça, c'est insupportable. Et je pense que ça participe du fait que quand il y a un gros projet comme la méthanisation, bah, les gens s'y opposent. Parce qu'ils considèrent que, par ailleurs, ils ne sont pas respectés quand eux essayent de porter quelque chose. la problématique du Liosu, on est exactement là-dedans. Il y a des gens qui sont montés, vous connaissez le projet comme moi, mais il y a des gens qui ont monté un collectif avec un vrai projet. Ils ont été confortés par le conseil départemental pour continuer à porter ce projet. Ils ont fait un gros travail, ça a duré un an, ils ont monté un collectif, il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions et d'heures de travail. Ils ont été confortés par le conseil départemental qui leur disait « Continuez, continuez, allez-y, c'est très bien, on va réoccuper les amis du CD, etc. » Pour rappel, les Amis du Célé, qui est un lieu abandonné depuis je ne sais pas combien d'années, qui a été détruit et qui a un fort poids émotionnel pour les gens du coin. C'est mon cas, puisque j'y allais quand j'étais petit, on allait profiter de ce lieu avec l'école, etc. Et puis, le coup près tombe, du jour au lendemain, une lettre avec trois lignes en disant « Non, nous ne souhaitons pas que ce lieu soit, la gestion de ce lieu soit donnée à un privé, je ne sais plus la formule exactement. » Et donc, fin de non-recevoir. Et depuis, terminé. Et pour en rajouter une couche, pour ceux qui ne le sauraient pas, le conseil départemental a utilisé l'enveloppe qui était prévue pour le développement rural, qui était la fameuse enveloppe de Manuel Valls de 1 milliard, dont une certaine portion est arrivée dans le Lot, qui était censée être une enveloppe qui était destinée au développement rural avec un certain nombre de critères de transition écologique. Voilà. Cette enveloppe a été utilisée, entre autres, pour détruire des bâtiments et emmurer d'autres au Liosu. Ce que je veux dire, c'est vraiment, franchement, assez hallucinant. Et ben, moi, je comprends que ces gens soient en colère. Moi, ça me met en colère aussi. J'habite à côté du Liosu. Je pense qu'il y avait un projet qui était très intéressant, où le conseil départemental avait sa place. Et de nouveau, on peut discuter de ce projet. On peut ne pas être d'accord avec tout ce que le collectif pour le Liosu a porté. Mais ils avaient prévu dans les statuts une place pour le conseil départemental, donc que le conseil départemental s'assoie à la table et discute avec ces gens-là pour essayer d'infléchir le projet peut-être dans un sens qui, eux, leur semble convenir. Le collectif du Liosu a une idée, le conseil départemental a aussi une expérience, c'est légitime pour apporter des solutions. Ils savent comment fonctionne le tourisme, ils savent comment fonctionnent les flux dans la vallée du Célé, dans la vallée du Lot. La discussion est intéressante, mais elle n'a pas lieu.
Alors, une autre question plus générale concernant les Verts, Europe Écologie. Je ne veux pas remonter à Dumont, qui a apporté énormément dans la vie politique française en amenant le sujet de l'écologie, en le mettant sur la table. Il y a eu énormément de discussions chez les Verts à ce moment-là, tout naissant, qui était de celui, est-ce qu'on doit prendre la forme d'un parti politique ou est-ce qu'on doit être l'aiguillon qui est là et qui amène le débat et qui ne lâche pas, et grosso modo, de faire du lobbying citoyen sur l'exécutif. Au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire d'Europe Écologie, et je pense notamment au... dans le dernier gouvernement, avec les couleuvres qu'ont avalé les Verts, notamment par, je pense, au nucléaire, qui est une question essentielle. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Enfin, quelle est la position? Est-ce que la vraie position d'Europe Écologie serait pas de faire du lobbying citoyen et de ne pas arriver à des compromissions parce que les logiques d'appareil, de... Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, écoute, je pense que, Europe Écologie Les Verts... on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui c'est un parti avec ses lourdeurs de parti politique. Je pense que dire le contraire, ce serait vraiment prendre des gens pour des idiots. Mais évidemment, on se prend pour un mouvement. Et Europe Écologie Les Verts, au moment de sa fondation en 2009, hein, donc quand les Verts sont devenus Europe Écologie Les Verts, et c'est transformé justement pour intégrer des gens de la société civile, entre guillemets, et notamment créer ce fameux statut de coopérateur qui permettait d'adhérer à la plateforme sans être un militant, qui préfigurait déjà ce qui a pu se passer dans d'autres mouvements par la suite. Ça peut paraître un peu prétentieux, je ne dis pas que c'est nous qui avons inventé ce concept. Hein. Donc sur l'histoire du lobbying de l'écologie, je pense que très clairement l'écologie, ce n'est pas un sujet qui appartient à Europe Écologie des Verts, c'est un sujet d'ailleurs, on l'a bien vu durant cette campagne, il y a plus de tas de candidats qui ont porté cette question, enfin des tas, il y a plusieurs candidats qui ont porté cette question, et il est très très bien que l'écologie dépasse largement, aussi largement que possible, le cadre d'Europe Écologie des Verts. Mais le lobbying écologique n'appartient pas non plus seulement... je veux dire, le lobbying écologique, il y a des tas d'associations qui le portent. On va prendre les plus emblématiques, mais il y a Greenpeace, France Nature Environnement, on trouve tout ce qu'on veut en termes d'associations qui portent cette question et qui essayent de la pousser dans le champ politique. Je pense que malgré tout, c'est intéressant d'avoir un parti politique aujourd'hui qui est capable d'emmener des gens dans les gouvernements qui se soucient vraiment d'écologie. Parce qu'ils peuvent vraiment faire la courroie de transmission entre cette attente légitime d'une grosse partie de la population et la gestion politique. Et ça, je crois que c'est l'ambivalence d'Europe Écologie Les Verts, qui n'est pas toujours facile à tenir, je le conçois. C'est ma position. Ça a été la position de ceux qui ont décidé d'aller au gouvernement avec Hollande, qui ont effectivement avalé des couleuvres. C'est-à-dire que, où est le curseur entre, comme tu le disais plus tôt, le compromis et la compromission ? Là, le curseur est manifestement allé trop vers la compromission, donc ils ont décidé de se retirer, c'était louable. Mais malgré tout, la politique, on peut trouver ça pénible, à un moment, c'est du compromis.
Ça veut... Mais est-ce que ça ne fait pas partie justement des éléments qui déboussolent les électeurs, les citoyens, et qui amènent la colère aujourd'hui ? Comment discuter, par exemple, avec le PC quand on est écologiste alors que ce sont des productivistes ? Vous voyez, je le dis d'autant plus facilement que j'ai travaillé avec eux, qu'on a un socle de valeurs communes qui est suffisamment large, mais il y a des points sur lesquels on ne peut pas transiger, on peut pas avoir de compromis.
Je suis tout à fait d'accord. Enfin, bien entendu. C'est de nouveau, c'est ça. Il faut trouver, je me répète, je ne sais pas si ça semble être de la langue de bois, mais effectivement, il faut trouver le bon curseur entre compromis et compromission, parce que moi, je continue à croire que ce qui compte, c'est justement qu'on discute, qu'on essaye de démontrer que c'est juste d'aller dans cette direction, que c'est vers là qu'on doit se diriger maintenant. Et les oppositions trop fortes ne permettent pas cette discussion. Moi, je crois que dans tous les mouvements politiques, je pense que c'est le cas, par exemple, de plein de gens qui militent à l'intérieur de En Marche aujourd'hui, y compris dans le Lot, sont très soucieux de cette question de la transition écologique. Si on n'est pas capable de discuter avec eux et de montrer que, oui, on est capable de travailler ensemble pour aller dans cette direction, eh ben on va rester muré sur notre position, qui sera cohérente, il n'y a pas de problème, elle sera cohérente. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à quelque chose. Cela dit...
Mais est-ce que là, dans ce cas-là, tu n'as pas l'impression que l'Europe Écologie Les Verts sert d'alibi, finalement, que ce soit au PS, on a vu avec le PS, on ne s'en sort pas de cette histoire ?
Alors... Oui, probablement. Enfin, je pense qu'à l'intérieur du PS, on trouve de tout. C'est-à-dire, on trouve des gens qui n'ont aucun scrupule à se servir de ELV comme un alibi, comme on trouve des gens qui, aujourd'hui, sont sincèrement concernés par cette question de la transition écologique.
Mais ultra minoritaire. On voit ce qui vient se passer avec Hamon, c'est 6% des voix.
Peut-être. Mais cela dit, je pense que je ne trahirai personne en de toute façon, je nommerai pas, mais j'ai des discussions avec des gens qui sont au niveau national de ELV, qui ont des discussions avec des gens du PS dans le cadre de cette plateforme commune qu'on a eue entre Jadot et Hamon. Et ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur du PS, des gens qui étaient aux responsabilités, très haut placés, etc., n'avaient pas, en fait, les connaissances sur tel ou tel sujet, sur les implications de Notre-Dame-des-Landes, sur l'implication de Bure, le stockage des déchets nucléaires. Ils n'avaient pas les informations. Et là, à mon avis, c'est très très important qu'il y ait des gens qui puissent discuter avec eux et leur expliquer ce qu'il y a comme souci. Alors, de nouveau, je pense que... Enfin, je ne vais pas défendre ELV bec et ongle, c'est absolument pas mon sujet. Et c'est, de nouveau, ce qui compte, c'est la transition écologique. Est-ce que ELV est le bon véhicule, pas le bon véhicule? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse à ça. C'est le véhicule pour lequel j'ai opté pour l'instant. Mais je vais faire un parallèle avec ce qui se passe dans le champ associatif. Je vais faire le parallèle entre ce qui se passe, par exemple, entre Greenpeace et le VVF. S'il n'y avait pas Greenpeace, le VVF ne pourrait pas faire son travail. Et s'il n'y avait pas le VVF, ce que Greenpeace fait comme travail ne trouverait pas de courroie de transmission dans un champ plus vaste. C'est-à-dire qu'il y a besoin de lanceurs d'alerte. Il y a besoin de gens qui tapent très fort sur la table. Il y a besoin de gens qui n'ont pas peur des opérations coup de poing. Il y a besoin de militants qui sont costauds et qui y vont, comme les gens de Greenpeace. Et puis il y a besoin de gens comme le VVF qui vont discuter avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, avec des gens dans des entreprises, avec des politiques effectivement productivistes, etc., pour tenter de faire passer le message, pour tenter de changer, de faire changer les habitudes. Et je crois que... Même si c'est probablement un peu la guerre entre le VVF et Greenpeace, comme ça peut être la guerre entre... Enfin, la guerre. Le mot est un peu fort. peut y avoir des tensions, disons, comme il peut y avoir des tensions entre différentes plateformes politiques, à mon avis, les deux sont nécessaires et se complètent de ce point de vue-là. Si on n'est que dans du militantisme pur et dur, on va finir par se corneriser, on va finir par se mettre dans un coin, on va finir par, par ne pas réussir à faire passer ce message à toute une partie de la société qui n'entend pas les choses de cette manière. On doit être capable aujourd'hui, et là, je pense que le Lot est particulièrement significatif de ce point de vue-là. C'est un petit territoire, les gens vivent ensemble dans les communes, pas forcément avec les mêmes opinions politiques, pas la même culture et pas le même langage. Et on a besoin de s'asseoir autour de la table et de trouver ce langage commun et de trouver des solutions communes. Et on le voit, ça marche. Enfin, je veux dire, il y a des initiatives ici. Il y a eu le 22 avril à Tour de Fort une journée pour discuter justement sur la question du partage des espaces et de comment on fait pour aider la transition de l'agriculture. Il y a des gens de tous horizons qui sont venus à ces discussions. Des élus locaux, des agriculteurs conventionnels, des agriculteurs bio, des gens qui sont dans les circuits courts, des restaurateurs. On est juste à côté de Saint-Cyr-la-Popie. Et ces gens se sont parlé, chacun avec leur langage, mais poliment, à l'écoute. Et manifestement, il en est ressorti une véritable envie de trouver des solutions pour faire des choses ensemble. Eh bien, moi, j'estime que c'est le rôle d'une plateforme politique comme ELV d'être le médiateur sur ces questions-là. En tout cas, moi, c'est ce que moi je veux porter, à titre personnel. Je pense que c'est aussi parce que c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est pour ça que je me retrouve là-dedans. Voilà. Est-ce que c'est efficace, pas efficace ? Ça n'exclut pas, et c'est très important de le rappeler, ça n'exclut pas évidemment qu'il y a un moment la politique. C'est du rapport de force. Faut pas être naïf, c'est du rapport de force. Nous, on place le rapport de force sur certains sujets. Je pense que sur Notre-Dame-des-Landes, le ELV n'a pas été avare. Voilà, tu l'as dit toi-même, les ministres ont décidé de quitter le navire au moment où ils ont vu qu'ils se faisaient bananer sur cette question, ou sur Fessenheim. Voilà, il y a aussi d'autres forces politiques qui sont là et qui font le rapport de force de manière très efficace.
Merci Mathieu, on se retrouve j'espère très vite pour peut-être un débat avec plusieurs candidats, s'ils l'acceptent, s'ils acceptent le principe. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà, cette émission est maintenant terminée et nous espérons qu'elle vous aura aidé à connaître un peu plus Mathieu Ebessen. Nous vous disons à très bientôt sur le site du Lot en Action ou sur nos radios libres préférées, Antenne Doc et Décibel FM.